Radio Kapi. Jean-Désiré Kanyama, la présentation de votre journal.
Au sommaire de ce journal, ouverture hier mardi en République sud-africaine du 15e sommet des BRICS sous le thème BRICS et Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Les dirigeants de 67 États d'Afrique et globalement du Sud débattent de l'élargissement du groupe à de nouveaux pays. En justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a acquitté hier soir l'ancien conseiller privé du chef de l'État, faute de preuves étayant les accusations du ministère public. Fortuna Bisselele recouvre sa liberté définitivement et se voit ainsi innocenté par la justice. L'invité de ce journal est le ministre provincial des infrastructures et travaux publics au Sud Kivu. Gaston Sissa Wanumbe parle des consultations autour de la transition de la MONUSCO, thème principal de Nathalie Clotiré, la semaine dernière à Uvira, un peu plus au sud du Sud Kivu. Avant de développer ce titre, retenez que la Commission nationale électorale indépendante prolonge de 5 jours la période de dépôt et de traitement des dossiers de candidature à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux, soit du 23 au 27 août 2023. La centrale électorale l'a fait savoir dans un communiqué publié hier mardi soir. Le but étant, selon la CENI, de garantir l'inclusivité du processus et l'équité des traitements entre les compétiteurs. Dès lors, la période d'ajout du retrait de l'association des dossiers ira du 22 août au 1er septembre 2023. Ouverture hier mardi du 15e sommet des BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud sous le thème BRICS et Afrique. Partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Les BRICS vont débattre d'un sujet brûlant, l'élargissement du groupe à de nouveaux pays. Les dirigeants de 67 pays d'Afrique et du Sud global ont ainsi été invités pour assister à l'ouverture et à certains événements de ces assises du 22 au 24 août 2023. La RDC est représentée à ce sommet par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. D'autres explications avec vous, Alain Hirung.
Actuellement présidé par l'Afrique du Sud, le club des BRICS regroupe 42% de la population mondiale, soit 3,2 milliards de personnes, et environ 25% du PIB mondial. Mais avec 23 pays candidats officiellement pour intégrer l'organisation, cet espace géopolitique pourrait à terme constituer plus de la moitié de la population mondiale. Parmi eux se trouvent principalement des pays africains comme l'Éthiopie, le Sénégal, l'Algérie et l'Égypte, séduits par le non-alignement politique et économique des BRICS. D'autres États africains se sont montrer intéressé pour rejoindre l'organisation sans pour autant porter de candidature officielle, c'est le cas du Gabon, des Comores ou de la République démocratique du Congo. Les pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ou encore l'Iran sont candidats. Une dizaine d'autres pays sont candidats, notamment en Amérique latine et en Asie. Si Lula, Xi Jinping et Narendra Modi seront présents autour du président sud-africain Cyril Ramaphosa, un personnage clé manquera à l'appel, Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe, ce qui aurait obligé l'Afrique du Sud à l'arrêter dès son arrivée sur le territoire. Il sera représenté par Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères.
En marge de ce sommet du BRICS, faisant partie de la délégation congolaise, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité la société UD Track, spécialisée dans le montage de véhicules basés à Pretoria, en République sud-africaine. Celle-ci, affirme le ministre, promet par les biais de ses responsables de venir s'installer dans certaines zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. On écoute Julien Paluku dans ses propos sélectionnés par Alain Hirung.
Les contacts avec cette société qu'on appelle UD Trucks, c'est pour nous permettre de voir comment nous pouvons l'installer dans l'une des zones économiques spéciales qui sont fonctionnelles en RDC. D'une part à Kinshasa et d'autre part du côté de Lubumbashi et peut-être une troisième fois du côté de l'Est pour permettre de pouvoir faire une politique d'encerclement de l'ensemble de la République. Parce que si nous avons autant de véhicules qui sont produits dans les trois espaces ou dans les quatre espaces, ça va permettre de pouvoir rencontrer les besoins de l'ensemble de la population congolaise en matière de transport. Et donc nous allons signer avec l'entreprise un memorandum of understanding et un MOU pour nous permettre de dérouler une feuille de route qui nous permettra d'ici peut-être 3-4 mois de commencer à mettre en œuvre les contenus de notre feuille de route. Nous avons proposé le modèle des zones économiques spéciales à cette société pour lui permettre d'accéder à tous les avantages liés à l'importation des matières premières. Vous savez que quand on est installé dans la zone économique spéciale, on ne paie pas de frais de douane. Ça permet à ce que le produit qui est issu de la zone est plus compétitif et au niveau interne et au niveau externe. La Chine l'a fait, c'est la raison pour laquelle je l'ai toujours répété. Les gens ont l'impression que les produits chinois sont moins chers parce qu'ils viennent simplement des zones économiques spéciales.
Ici à Kinshasa, désespoir hier mardi pour des centaines de vendeurs du marché de Matadi Kibala, délocalisé au niveau du Kampem, dans la commune de Mongafula. Un incendie a ravagé ce site la nuit dernière. Une grande partie du marché et des dépôts en planche est partie en fumée. Avec eux, toutes les marchandises des commerçants. L'administrateur du marché, Pelé Bofini, dresse un bilan provisoire, l'inventaire étant en cours. Il a été joint par Babel Pongo Massimango.
Bon, jusqu'alors, nous sommes en train de faire les enquêtes. La cause n'est pas encore connue. Mais il y a une maison qui s'était brûlée, hein. Comme c'était la nuit, il y avait le vent, là. Ça a touché plusieurs maisons sur 57 maisons qu'on avait. C'est resté que 12. 45 ont été brûlées avec 380 tables. On avait construit 480 tables. Donc, nous sommes restés avec 100 tables. Quelques marchandises ont été volées. Nous sommes en train d'inventorier, hein. Il n'y a pas de blessures, pas mort d'homme. Donc, sauf un dégât matériel.
Et puis l'inscription le 14 décembre 2021 de la rumba congolaise des dérives du fleuve Congo sur la liste du patrimoine mondial immatériel culturel de l'humanité par l'UNESCO marque un tournant décisif dans la vie culturelle de ces deux pays. Les succès récoltés au pays comme à l'étranger par les artistes et musiciens chantres de cette rumba relancent le débat sur l'industrie musicale. Peut-on parler aujourd'hui d'une industrie musicale en RDC ? Existe-t-elle ? Jean-Marc Matois qui répond à ces questions dans cette série de reportages que Radio Okapi vous propose à partir d'aujourd'hui.
Selon John Mbingilai, réalisateur, cinéaste et caméraman, l'industrie musicale congolaise existe partiellement. Il explique pourquoi.
Oui, en partie. Pourquoi j'ai dit en partie ? Parce que un musicien est capable de fabriquer son produit musical dès la conception jusqu'au produit final sur place à Kinshasa. Sauf que cette industrie-là n'est pas bien régulée.
Cependant, selon le professeur André Yoka Liemoudaba, écrivain, critique d'art, président de la commission mixte sur l'inscription de la rumba congolaise de deux rives du fleuve Congo sur la liste du patrimoine mondial immatériel culturel de l'humanité, l'industrie musicale, au vrai sens du terme, en République démocratique du Congo, n'existe pas encore.
On ne peut pas parler de l'industrie culturelle en termes de musique, non. Il y a une sorte de proto-industrie culturelle, c'est-à-dire une sorte d'embryon. Il y a beaucoup de studios qui existent, hein, qui font merveille malgré les modestes moyens dont elles disposent. Mais une industrie au niveau de la force de frappe de notre pays, elle n'existe pas.
Il sied de rappeler que l'industrie musicale, appelée également industrie du disque, désigne les activités qui contribuent à l'offre de produits musicaux.
Justice, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a acquitté hier soir Fortuna Biselele, ancien conseiller privé du chef de l'État. Renvoyé de fin de poursuite, faute de preuves, étayant les accusations du ministère public, Biselele recouvre sa liberté définitivement et se voit ainsi innocenté par la justice. D'autres précisions avec vous, Jeff Ngoy.
Accusé de trahison et d'intelligence avec le Rwanda, Biselele était arrêté le 14 janvier et gardé à vie par l'ANR, puis présenté au tribunal le 7 avril. Il a bénéficié d'une liberté provisoire le 22 juillet et c'est le 4 août que son affaire a été instruite sur le fond et débattue contradictoirement avant d'être rapidement plaidée et désormais close. Dans une autre affaire, cette fois-ci, la haute cour militaire renvoie au 25 août prochain l'audience du réquisitoire du ministère public et des plaidoiries des parties au procès du député Édouard Mwangachuchu. À l'audience publique hier mardi à la prison militaire de Ndolo, le ministère public a reconnu que l'infraction d'espionnage contre le député ne peut plus être tenue et il a requis de la requalifier en trahison, car estimant que le test de COVID-19 effectué au Rwanda par le prévenu ne suffit pas pour asseoir l'infraction d'espionnage comme pièce maîtresse attestant sa nationalité étrangère. Mais il a précisé que les deux infractions ont les mêmes éléments constitutifs. Rappelons que Mwangachuchu et son co-prévenu sont accusés d'entretenir des liens avec la rébellion du M23.
La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC a été au centre de la rencontre hier mardi ici à Kinshasa entre le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Les deux personnalités ont scruté ensemble les questions liées à la détérioration de la situation humanitaire sur le terrain où il y a des contraintes pour l'action humanitaire. On écoute à ce sujet Bruno Le Marquis dans cet extrait sélectionné par Jacques-Yves Molima.
Nous avons échangé sur un certain nombre de sujets pour lesquels nous avons des collaborations en cours. Ensuite, on a parlé de la question du PDDRCS, pour lequel il y a aussi une collaboration avec le ministère de la Défense et bien sûr avec la coordination nationale du PDDRCS. Donc, j'étais là avec mes collègues qui suivent ces différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection des civils. Du fait de la résurgence de certains conflits, il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire, certaines contraintes pour l'action humanitaire pour apporter secours à toutes ces personnes qui ont été déplacées, notamment autour de Goma, y compris la question très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées au conflit. Et puis on a aussi parlé de la question de l'extrémisme violent, des ADF pour lequel la MONUSCO, les Nations Unies travaillent avec les institutions de la RDC.
Dans un autre chapitre, au Kassai Oriental, un engouement des candidats indépendants ainsi que des mandataires des partis et regroupements politiques a été constaté hier soir à la fermeture du BRTC Mbujimayi. Le président de ce bureau de réception et de traitement des candidatures déplore l'arrivée massive des retardataires pour le dépôt de leurs dossiers. Pierre Kenemo a indiqué qu'avant la clôture officielle, 5 dossiers de candidature à la députation provinciale ont été déposés depuis l'ouverture de ces bureaux et qu'aucun dossier de candidature des conseillers communaux n'a été réceptionné à ce jour. Contacter quelques candidats non encore en règle avance les raisons liées au retard dans le dépôt de leur candidature. Écoutons à ce sujet tour à tour Jean-Claude Kabea et Christina Mbombo, candidats députés provinciaux au micro d'Esther Ndalafina.
On venait souvent, mais nous n'étions pas encore au complet. Il y avait quelques remarques par-ci par-là sur des attestations et consorts, et nous avons pu quand même nous mettre en ordre, et c'est pour cela que nous sommes arrivés aujourd'hui.
Nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on n'avait pas encore tous les documents au grand complet. Quand on nous a remis les dossiers, nous sommes allés tout mettre en ordre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes là, à la première heure, pour déposer. On était en train de nous préparer, parce que ces formulaires-là, il faut vraiment les remplir à la lettre. Donc, si ce n'est pas bien rempli, vous pouvez le faire à la hâte. Vous arrivez, on vous dit que ce n'est pas bien rempli et vous retournez encore. Alors, il faut le faire à tête reposée.
Et tout à fait autre chose à présent, au Nord Kivu, à 2 semaines de la rentrée scolaire prévue le 4 septembre en RDC, aucun engouement n'est observé dans les marchés de vente des fournitures scolaires à Beni. Cette situation inquiète les vendeurs qui passent des journées entières à attendre d'hypothétiques acheteurs. Les quelques parents rencontrés sur place évoquent la crise économique. Reportage André Kitenge.
Au marché central de Kilokwa de Beni, l'ambiance est plutôt calme. Pas d'engouement ni de bousculade des parents chez les vendeurs de fournitures scolaires comme à l'accoutumée. En cause, le non-paiement des agents et fonctionnaires de l'État explique certains vendeurs comme Padios Mutsunga qui vend des fournitures scolaires au marché de Kilokwa.
C'est un problème. Il n'y a pas d'engouement des clients. Nous graissons les dents. Ce qui est vrai, les parents n'ont pas d'argent. La situation n'est pas bonne car il manque d'argent pour acheter les fournitures scolaires. Alors notre demande est que les gens soient payés parce que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. C'est pourquoi nous nous plaignons, nous vendeurs des fournitures scolaires ici.
De fait, les parents sont peu nombreux dans les allées du marché central à quelques jours de la rentrée scolaire. Une autre raison de ce manque d'engouement est la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Une dame rencontrée parmi les rares clients dit s'être fait violence pour acheter quelques objets classiques.
Je suis venue acheter les fournitures scolaires, sacoche, uniforme. Vraiment, le prix a augmenté à cause du taux des dollars américains. Il n'y a pas d'argent.
Et notre vendeur espère que les clients viendront en grand nombre à la veille de la rentrée scolaire. Pour lui, il y a de l'espoir. Les inscriptions ne font que commencer dans quelques écoles de la place. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Zimbabwe, quelques 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour des élections présidentielles, parlementaires et locales, avec des noms qui se démarquent parmi les 11 candidats pour la présidence. Emmerson Mnangagwa, candidat à sa propre succession, et les chefs de l'opposition Nelson Chamisa, jeune avocat et pasteur. Cela dans un climat tendu. L'opposition a dénoncé une répression croissante dans le pays qui fait face à la pauvreté et à une inflation galopante. Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a déclaré hier mardi qu'il prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente au Niger et demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement. Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a décidé par ailleurs de la suspension de ce pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet de toutes les activités de l'UIA jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre provincial des infrastructures et travaux publics au Sud Kivu, Gaston Sissa Wanumbe, parle des consultations autour de la transition de la Monisco, thème principal d'un atelier clôturé la semaine dernière dans la ville d'Ouvira. Il s'entretient avec Fiston Ngoma Mayabala.
Gaston Sissa Wanumbe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre provincial des travaux publics. Quel est le mot que vous placez par rapport à ces consultations autour du processus de transition de la Monisco?
Notre point de vue en tant que gouvernement, c'est de passer aux urgences vers le durable. Et évidemment, les urgences, on ne saura pas les arrêter. Si elles arrivent, on sait comment les affronter. Mais au moins, la vision actuelle, c'est aller vers le développement durable. Ça, c'est comme ça qu'on discute, on parle de transition de tous les systèmes des Nations Unies au Congo. Alors, à partir de cette transition-là, il y a une période où la Monisco devra aussi partir, que nous remercions d'ailleurs, et au nom de la population congolaise, à travers son Excellence Monsieur le Gouverneur, pour le travail qu'ils ont fait. Ce sont deux partenaires, c'est les Nations Unies qui étaient venues, la communauté internationale qui avait fait son engagement sur demande du gouvernement congolais pour venir nous assister en période de difficulté. Et c'était une période de difficulté, des conflits, des guerres civiles. Et maintenant, même si nous avons des troubles, si un voisin vient vous aider, une amie, il ne faut pas espérer qu'il va rester éternellement. Il devra partir un jour. Maintenant, c'est de par là que nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de discuter, qui a déjà été accordé donc au niveau international par le président de la République, par un comité qui existe, dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, Sama Dukonde, et par le secrétaire général des Nations Unies à travers les conseils de sécurité. Maintenant, la première information, c'est que le premier plan est demandé à ce qu'il y ait un retrait progressif de la Monisco. Mais ce retrait progressif devra être bien réfléchi de manière que ça ne puisse plus laisser des casses ou alors que demain on lui demande encore de revenir. Alors la question c'est comment renforcer les capacités institutionnelles de structures congolaises de manière que nous puissions nous prendre en charge et nous assimiler.
Vous avez suivi de près les discussions autour des défis encore à relever. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu votre attention surtout?
L'ensemble des défis a retenu mon attention particulière.
Le plus grand défi c'est quoi au sud-sud qui vont?
Le premier c'est sécuritaire certainement. Il y a encore une sorte de poche d'instabilité avec non seulement des groupes armés étrangers mais aussi locaux, nationaux comme on l'a dit, mais par rapport à ces défis, il y a quand même un mécanisme. Et son Excellence, M. Félix Tshisekedi, le président de la République, chef de l'État, en avait encore parlé à la table ronde de Kinshasa, c'est qu'il y a un programme qui répond à cela, qui voudrait absorber ces défis des groupes armés. C'est quoi? C'est les PDDRC. Donc, c'est un appel, une invitation aux groupes armés congolais de rejoindre ce processus. À travers ce processus, ils vont devoir servir leur pays. Et à côté de cela, il y a un autre mécanisme pour les groupes étrangers qui devront rentrer chez eux. Mais aussi, c'est un appel à la communauté, puisque tout en remerciant, tout en félicitant les groupes qui sont là et qui étaient là par la volonté de défendre l'intérêt national et la souveraineté nationale aux côtés des forces, c'est de maintenant profiter de cette occasion pour intégrer un système officiel, légalisé. Et en même temps, c'est demander à la population d'accompagner le processus déjà en cours, mais également cette réflexion des transitions, mais aussi des retraits progressifs de la Monisco.
Vous êtes ministre provincial des infrastructures et travaux publics. Dans les échanges, les participants ont évoqué les problèmes d'enclavement de la région des Moyens et Hauts Plateaux, une situation qui occasionnerait, selon eux, cette insécurité, la présence active même des groupes armés dans ces milieux enclavés, des Ouvira, Fizi et Tombouctou.
Tout à fait. C'est un des défis aussi qui avait été relevé, puisque du moment où on n'a pas de route, d'abord, il n'y a pas de développement. Même si on parle de développement durable, il n'y a pas de développement durable sans infrastructure routière. Même en termes de sécurité, il faut avoir le moyen de pouvoir déplacer nos forces là où il y a nécessité qui se déploie pour défendre l'intérêt ou pour protéger la population. Et donc, je me suis senti moi-même interpellé. Un message que je vais devoir...
Parce qu'il faut que la Monisco fasse les routes.
Non, la Monisco ne saura pas faire la route à notre place, mais elle peut nous aider, non seulement la Monisco, mais d'autres agences du système des Nations Unies, puisqu'elles sont là pour appuyer les gouvernements congolais. Et dans notre programme, le programme du chef de l'État, il y a le programme de 145 territoires qui prend en compte aussi certaines infrastructures routières. Mais au-delà de ça ou à côté de cela, pourquoi pas qu'on puisse maintenant réfléchir dans cette période de transition, qu'est-ce que le partenaire peut nous appuyer dans le sens d'améliorer notre travail de réhabilitation des routes. Ça a été discuté et c'est convenu et c'est inscrit dans le rapport final.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics au Sud Kivu, Gaston Sissawanoumbe, s'entretenait à Ouvira avec Fiston Goma. Fin de ce journal qui a été mis en onde par Mimi Kindou, Alain Irung l'a supervisé et coordonné. Infiniment merci à vous de l'avoir suivi et de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.